Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons donc le sujet « J'ai choisi le Christ ». Et aujourd'hui, nous verrons qu'il est également l'alpha et l'oméga. Il est dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, oui, qui était et qui vient, c'est-à-dire le Tout-Puissant. » Et ensuite, il est dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 6, il me dit encore, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et un chapitre plus loin, Apocalypse 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » L'un des titres que le Seigneur se donne dans sa résurrection est l'alpha et l'oméga. Le Seigneur se présente ici comme le vivant. Celui qui a été mort, mais qui est maintenant vivant. Et au siècle des siècles, il est et restera vivant. Apocalypse 1, verset 18. Ces deux lettres, Alpha et Oméga, sont, nous le savons, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. L'une a la même forme que la première lettre de notre propre alphabet, l'autre est différente de toutes nos lettres, alpha et oméga, premier et dernier. Dans tout alphabet, il y a quelque chose qui correspond à un A et à un Z, un alpha et un oméga, un commencement et une fin. Peu importe que l'alphabet soit compliqué ou qu'il ne contienne que 26 pauvres lettres, comme notre alphabet français, allemand ou anglais, tout est cependant limité par le A et le Z, l'alpha et l'oméga. L'on ne peut rien trouver en dehors de cela. Tout se trouve entre ces deux lettres. L'alpha et l'oméga embrassent tout ce qui est nécessaire au discours. Il n'y a pas de discours possible dans aucune langue en dehors de ce qui se trouve entre ces deux lettres. Tout ce qui peut être dit doit rester dans leurs limites. En dehors de leurs limites, rien ne peut être dit. Dieu ne peut être connu en dehors de Christ. Avez-vous bien entendu cela? Dieu ne peut pas être connu en dehors de Christ. Et si vous pensez et prétendez qu'il y a d'autres religions où cela existe, je n'en connais pas. Or, Jésus-Christ dit cela de lui-même, « Je suis l'alpha et l'oméga ». La parole de Dieu nous dit que Christ est la plénitude de Dieu et que Dieu veut rassembler toutes choses en Christ. Elle nous montre de plus que Dieu ne parlera jamais à personne en dehors de son Fils Jésus-Christ. Il a lié à son Fils tout ce qu'il a dit à dire à l'homme. Absolument tout ce qu'il a à dire à l'homme, il l'a donné, il l'a lié en quelque sorte à son Fils bien-aimé. Il a fait de Christ la limite de tout. Il n'a rien à dire. Il ne dira rien en dehors de son Fils bien-aimé. Personne ne vient au Père que par moi, a dit le Fils. Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. » Saint Matthieu, chapitre 11, verset 27. Je le répète pour qu'on le comprenne bien ce verset, n'est-ce pas ? « Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. » Saint Matthieu, chapitre 11, verset 27. L'apôtre qui a écrit la lettre aux Hébreux la commence en disant « Autrefois, Dieu a parlé en fragments et en parties et de diverses manières, ceci par des hommes différents et en des temps aussi différents. Mais en ces derniers temps, Dieu a résumé tout ce qu'il avait à dire en son Fils. À la fin, il nous a parlé en son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Tout ce que Dieu nous dira et tout ce que Dieu peut nous dire sera en Jésus-Christ. Je suis l'alpha, la toute première syllabe de la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ. Elle commence par A, c'est le premier murmure du bébé. Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils bien-aimé, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Galates chapitre 4, verset 6. Notez bien ces versets, car vous pouvez les relire dans votre Bible. Galates 4, verset 6. La toute première syllabe de la vie chrétienne commence par A, Père. Nous ne connaissons pas le Père avant de connaître Jésus-Christ, car c'est lui qui nous a révélé le Père. Le commencement de toute connaissance de Dieu comme Père nous est donné par Jésus-Christ. Ce qu'il a dit dans sa prière était bien vrai. « J'ai manifester ton nom aux hommes. » Jean chapitre 17, verset 6. Et ce nom était celui de Père. Désirons-nous connaître Dieu ? Oui, désirons-nous le connaître comme un Père. Désirons-nous savoir ce qu'il a à nous dire, ce qu'il veut nous faire connaître ? Désirons-nous, chers amis, connaître toute la vaste richesse que Dieu veut nous révéler ou quelque chose de cette richesse? Nous ne pouvons la connaître qu'en Jésus-Christ. Nous ne pouvons la connaître qu'en celui qui est le commencement et la fin, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas de connaissance sans mots composés de lettres, excepté peut-être pour nos amis chinois, d'accord ? Et toutes les lettres se trouvent donc entre ces deux. Il n'y a pas de connaissance qui soit une véritable connaissance, une connaissance qui soit la vie éternelle, en dehors de Jésus-Christ. C'est ici la vie éternelle, qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Saint Jean, chapitre 17, verset 3. Oui, il n'y a pas de connaissance en dehors de Jésus-Christ. Et il n'y a pas de communication de la part de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Mettez Jésus-Christ de côté et Dieu sera silencieux. Il n'a rien à vous dire. Si nous ne donnons pas à son Fils la place qui est la sienne, Dieu restera muet. Il ne nous dira rien. Plus nous honorons le Fils, plus le Père se manifestera à nous et sera en communion avec nous. Oui, tout besoin a sa réponse en Christ. Deuxièmement, l'alpha et l'oméga renferment non seulement tout le discours, ils répondent à tout besoin. Nous n'avons besoin de rien en dehors de A et de Z. Nous n'avons pas besoin de créer de nouvelles lettres. Tout est là. Peu importe que nous employions de grands mots, et il y a de grands mots en nos jours et comment, mais aussi peu importe la grandeur des mots, la longueur des phrases, la hauteur des expressions, nous pouvons répondre aux besoins du plus grand des mots, de la plus longue des phrases et de l'expression la plus entière par ce qui se trouve entre l'alpha et oméga, uniquement par ce qui se trouve entre alpha et oméga. Et pour tous ces grands nouveaux mots, nous n'avons pas besoin de créer de nouvelles lettres. Tout ce dont nous avons donc besoin est là. L'apôtre Paul nous dit que en lui, c'est-à-dire en Christ, habite toute la plénitude de la divinité. Notez Colossiens chapitre 2 verset 9. Tous les trésors de la sagesse et de la science, chapitre 2 verset 3, et que il a plu à Dieu, le Père, de faire habiter en lui toute sa plénitude. Chapitre 1, verset 19, nous sommes toujours dans Colossiens. Nous aimons beaucoup cette parole que l'apôtre Paul écrit aux Philippiens. « Mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 4, verset 19. Il sera pourvu à tout besoin sur l'échelle de ses richesses dans la gloire. Pouvons-nous saisir cela? Pouvons-nous, chers amis, embrasser cela? Mais c'est selon ce qui est en Jésus-Christ qu'il sera pourvu à tout besoin. En lui se trouve tout ce dont nous avons besoin. Il est l'alpha et l'oméga. Et lorsque Jésus-Christ dit « Je suis l'alpha et l'oméga », il dit « Je suis tout ce dont vous avez besoin ». Vous ne pouvez jamais avoir un besoin, vous ne pouvez jamais inventer ou imaginer quelque chose à quoi je ne suffirai pas. Aucune situation ne peut m'épuiser, car en moi demeure toute la plénitude, puisque je suis alpha et oméga. Christ est l'agent, le modèle et le but de la création. Christ est le premier et le dernier dans la création. C'est ce que dit la parole. Dans cette lettre aux Colossiens que nous venons de citer, l'apôtre nous dit clairement et précisément que en lui ont été créées toutes choses et qu'il est avant toutes choses. Chapitre 1, verset 16 et 17. L'apôtre Jean, au commencement de son évangile, il nous dit également que toutes choses ont été faites par lui. Chapitre 1, verset 3. Il est le commencement dans la création. Et dans la lettre aux Hébreux, il nous est dit que le monde ou les âges ont été faits par lui. C'est par lui qu'ils sont entrés en existence. Hébreux, chapitre 1, verset 2. Dans ce livre de l'Apocalypse, nous lisons, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe ou le commencement. le commencement de la création de Dieu, chapitre 3, verset 14. Il est donc l'alpha et l'oméga dans la création. Il est ici l'alpha, l'agent même de l'instrument de la création. Il a été le modèle de la création, car toutes choses ont été créées pour être, une expression temporelle et matérielle des réalités spirituelles et morales qui sont dans le Fils de Dieu. Si nous avions des yeux pour voir et une intelligence pour comprendre les secrets les plus profonds d'une création non déchue, d'un vaste univers sortant de la main de Dieu, nous verrions en tout quelque chose qui parle du Fils de Dieu, de son caractère spirituel et moral, de sa place suprême dans tout le système de Dieu. Il est le modèle de la création. C'est de lui et par lui, oui, pour lui, que sont toutes choses, selon Romains, chapitre 11, verset 36. Et il est déclaré être la perfection, le but de la création de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Christ est le premier et le dernier dans la rédemption. Tout ce que nous venons de dire a pour but de mettre le Seigneur Jésus à la place qui est la sienne dans l'univers de Dieu. Mais nous pouvons sentir que tout cela ne nous aide pas réellement. Ce qui se rapproche davantage de nous, c'est ceci, il est l'alpha et l'oméga dans la rédemption. Il est le premier et le dernier dans la rédemption. Nous trouvons encore dans cette lettre aux Hébreux ces paroles qui nous sont familières. Regardant à Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Chapitre 12, verset 2. Il est donc le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga de la rédemption. Christ est naturellement le commencement de la rédemption dans ce simple sens qu'il n'y a point de rédemption avant que nous venions à lui. Et de même qu'il n'y a pas de parole, pas de moyen de communication, pas de connaissance avant que nous venions à l'alphabet. Ainsi, il n'y a pas de rédemption avant que nous venions au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a donc simplement rien avant. Rien avant A. Il n'y a rien avant Alpha. C'est juste là que tout commence. Et ce qui est vrai en ce qui concerne le langage est vrai également dans la rédemption. Il n'y a simplement pas de rédemption, il n'y a pas de salut avant que nous venions au Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous venons à lui, il y a un nouveau commencement. C'est le commencement de tout, une sphère toute nouvelle et une nouvelle étendue de possibilités, que ce soit de communication, de connaissance et d'intelligence, de sagesse ou de plaisir. Quelle richesse, chers amis, il y a en Christ. Oui, quelle richesse il y a en lui, notre Rédempteur. Et lorsque nous le recevons comme le commencement, l'alpha du salut, quel monde merveilleux s'ouvre pour nous. Lorsque nous prenons un dictionnaire et que nous commençons à en tourner les pages, quel monde s'ouvre à nous. À mesure que nous avançons à travers les nombreux milliers de mots avec toutes leurs tailles et leurs formes différentes, quel monde nous avons là. je ne pourrais comprendre quelqu'un qui ne trouverait aucun plaisir dans un dictionnaire. Mais vous voyez à quoi nous voulons arriver. Car lorsque nous venons à Jésus-Christ comme à l'Alpha, un monde nouveau et vaste et merveilleux commence à s'ouvrir, un monde que nous n'avions jamais imaginé. Et lorsque nous trouvons de nouveaux mots dans le dictionnaire, des mots que nous ne pensions pas y être, cela nous ouvre une vision entièrement nouvelle. Il en est de même à l'égard du Seigneur Jésus-Christ lorsque il devient notre commencement. Un monde inépuisable s'ouvre devant nous. Richesse, plénitude, abondance de connaissances, nous avons devant nous des possibilités sans limite lorsque nous commençons par A. Et il n'y a pas de fin. De même que quelque chose de nouveau est ajouté d'année en année au dictionnaire, il en est ainsi de la vie chrétienne. Je n'exagère pas mon expérience durant toutes ces années, et spécialement peut-être durant ces derniers temps, c'est que Christ est inépuisable. Il y a beaucoup plus et toujours plus de trésors que nous n'avions pas encore découverts. Mais tout cela a commencé lorsque nous sommes venus à lui. Et cela a toujours continué depuis lors et se continuera durant toute l'éternité, car la parole dit « à l'accroissement de son empire, il n'y aura pas de fin dans son royaume », Ésaïe chapitre 9 verset 7, « pas de fin ». Quel royaume de plénitude est son royaume ? Mais il nous faut commencer avec lui. Il nous faut faire de lui notre commencement avant de pouvoir en posséder quelque chose. Il doit être nôtre, Alpha. Mais dès qu'il est devenu, eh bien, je le répète, un monde nouveau va s'ouvrir à nous. Une nouvelle plénitude et une telle plénitude commence à se révéler, car tout est en lui notre Rédempteur. C'est ce que nous trouvons dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Les titres du Seigneur qui lui sont donnés dans sa résurrection. Et nous avons ensuite des paroles qui nous disent ce qu'il a fait dans la rédemption. Il a racheté pour Dieu par son sang précieux, selon le chapitre 5, verset 9. Vous savez qu'on est dans l'Apocalypse. Il nous a lavés de nos péchés par son sang précieux et nous a fait roi et prêtre pour Dieu son Père. Chapitre 1, verset 6, toujours dans l'Apocalypse. Donc, c'est l'œuvre de la rédemption qui nous a ouvert un monde à tout et nouveau, une plénitude merveilleuse. Il est l'alpha de la rédemption. Christ n'est pas seulement le commencement. Il est celui qui commence. Il est dit ici, il est l'auteur, car regardant à Christ, l'auteur et le consommateur, nous est-il dit dans Hébreux 12, verset 2. Donc il est celui qui commence, celui qui prend en main cette responsabilité de recommencer tout à nouveau et de nous faire entrer dans un monde que nous n'avions jamais connu auparavant. Il en est l'initiateur. Tout est entre ses mains. Il le fait. Il a pris l'initiative de notre rédemption. C'est le point. J'en suis si heureux, si infiniment heureux. Quoi que l'on puisse dire de notre propre désir, du besoin que l'homme a de Dieu, de sa recherche de Dieu, cela ne peut être comparé au désir que Dieu a de l'homme, à la manière dont il le cherche. Ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous révéler, et ce qu'il nous a révélé, c'est que c'est Dieu qui nous cherche. Et ces paraboles merveilleuses et qui nous sont si familières sur la brebis perdue et la pièce d'argent perdue et le fils perdu, selon Saint Luc chapitre 15, et tous ceux qui sont perdus, oui, toutes elles doivent nous montrer que Dieu est bien celui qui cherche, que l'initiative est vraiment à Dieu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Saint Luc chapitre 19, verset 10. Ces références sont le plus souvent de la Bible, de la version Darby et aussi de la version ancienne de Bible, de English Bible. Alors, chers amis, quoi que s'il y ait, c'est Dieu qui a tout commencé pour vous et pour moi. Nous ne nous réjouirons pas de notre salut s'il ne l'avait pas commencé. Car il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Saint Jean, chapitre 15, verset 16. Et c'est pourquoi nous sommes au nombre de ces rachetés. Et si nous sommes maintenant parmi ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, c'est simplement parce qu'il nous a cherchés. Que nous l'ayons cherché ou non, il a été certainement celui qui nous a cherché le premier. Il a été celui qui a tout commencé. Aucun autre que lui ne peut commencer à nous racheter. Aucun autre que lui ne peut nous sauver. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Seul son saint nom, il n'y a pas de commencement à la rédemption hors de Jésus-Christ. S'il y en a qui vous disent qu'il y a d'autres chemins, tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Et Christ est le dernier, l'oméga et la fin. Et dans ce sens que lorsque il a commencé quelque chose, il l'achève. Oui, l'Éternel, dit la Sainte Parole, achèvera ce qu'il a commencé en ma faveur. Psaume 138, verset 8. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Et il finit ce qu'il commence, croyez-moi. Et il est non seulement celui qui commence et qui achève, il est lui-même, oui, lui-même, le commencement et l'achèvement. Lorsque vous et moi, nous finirons par atteindre le but dans sa gloire, eh bien, ce sera réellement une fin pleine de sens, n'est-ce pas? Oui, ce sera une fin qui justifiera tout, qui donnera sa signification à tout ce que nous aurons traversé, qui expliquera tout. les 1000 pourquoi de notre vie auront leur réponse, tout sera expliqué. Pourquoi a-t-il fallu cette expérience ou celle-là? Pourquoi cette tristesse et encore celle-là? Pourquoi ce désappointement et cette perte? Pourquoi ces voies étranges dans notre vie? Tout aura sa réponse à la fin. Et Jésus-Christ lui-même sera la fin. Oui, ce sera une fin qui aura une valeur. Nous ne discuterons pas avec Dieu alors parce que Jésus-Christ aura mis tout en ordre, absolument tout, et il nous aura amenés à une fin qui dépassera nos espérances les plus hardies, et qui sera entièrement en dehors de nos mérites. Chers amis, Dieu parle à nous et à travers nous par la vie. Nous pouvons ainsi comprendre pourquoi dans la Bible Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Dieu parle en lui et par lui, toujours et uniquement et finalement en son Fils. Peut-être dirons-nous, tout cela est très intéressant, mais après tout, comment parle-t-il? Devons-nous l'entendre de nos oreilles? Non. Si nous revenons au contexte de ces titres, nous verrons que Dieu parle par la vie de résurrection. « Je suis le vivant au siècle des siècles » Apocalypse 1, versets 17 et 18. Comment parle-t-il? Comment le connaissons-nous? Comment la vie est-elle libérée de ses énigmes et de sa confusion et amenée dans un ordre et un sens? Lorsqu'il devient notre vie, eh bien, il nous fait participants de sa propre vie de résurrection. Il met en nous cette vie qui est une vie d'ordre, une vie de sagesse et d'intelligence, une vie non plus de confusion, mais un modèle, carrément un modèle d'ordre. C'est une puissance de vie. Et cette puissance de vie, elle est et se trouvera en nous déjà maintenant. Et lorsque sa vie est en nous, eh bien cette vie répond aux questions, explique les choses, donne un sens à notre vie. Et tandis que pour les oreilles naturelles, la vie peut être imperceptible, la vie est en réalité ce qui parle avec beaucoup, beaucoup de puissance. Elle parle plus fort, beaucoup plus fort que des mots. Oui, un pauvre enfant de Dieu, souffrant peut-être, pas capable de dire grand-chose en paroles cohérentes, mais il suffit de passer avec lui un moment très court pour que la vie qui est en lui nous parle. La vie même qui est en lui parle avec beaucoup plus de puissance que des paroles. C'est la vie qui est en nous, qui est la communication, l'explication, la sagesse de Dieu, la puissance de cette vie agissant en nous. Et par cette vie, Dieu nous parle. Il répond à nos problèmes. Chers amis, Dieu est également le Dieu de l'Amen. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 14, « Écris aussi à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, le Dieu de l'Amen. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, le Dieu de l'Amen. Ésaïe, chapitre 65, verset 16. Car autant il y a de promesses de Dieu en lui, et le oui est en lui l'Amen à la gloire de Dieu par nous. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Nous voyons, d'après les passages tirés de l'Apocalypse et du livre d'Ésaïe, que « Amen » est un titre, une désignation, une description de Dieu. Son nom est l'Amen, le Dieu de l'Amen. Nous savons toute la valeur qu'a ce mot lorsque nous l'employons. Nous exprimons une note d'affirmation qui signifie que nous ne désapprouvons rien et que nous sommes en accord avec tout ce qui vient d'être dit. Nous appuyons qu'il en soit ainsi. Amen. Et c'est là une description de Dieu. C'est son nom. La description peut être résumée par un passage des Écritures saintes. Le Père des Lumières, en qui il n'y a aucune variation ni aucune ombre de changement. Jacques, chapitre 1, verset 17. Il est toujours le même, absolument digne de notre confiance, positif, défini, sûr, car il est le Dieu de l'Amen. Ésaïe regarde au-delà de la captivité et de la croix. Car maintenant, les contextes de ces deux passages nous donnent beaucoup de lumière sur l'emploi qui est fait de ce titre dans chacune de ces occasions. Nous voyons au chapitre 65 d'Ésaïe que nous approchons de la fin des prophéties. Nous sommes de l'autre côté du jugement d'Israël, c'est-à-dire au-delà de l'exil et de la captivité. Nous sommes maintenant avec le reste qui est retourné dans le pays. Le nouveau jour nous est présenté dans des passages comme ceux-ci. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et annoncez-lui que son temps d'épreuve a pris fin et que son iniquité est pardonnée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel un double châtiment pour tous ses péchés. Ésaïe chapitre 40, versets 1 et 2. Et dans le chapitre d'où nous avons tiré notre texte, le Seigneur dit encore « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Ésaïe, chapitre 65, verset 17. Un nouveau jour est donc venu, et c'est sur cette base, dans ce cadre et ce contexte, que paraissent ces paroles. Il y a dans ces paroles, nous le voyons, une perspective. Celui qui, sur cette base, en ce jour, voudra être béni, et celui qui jurera en ce jour-là, sur cette base nouvelle, ces paroles, chers amis, regardent dans l'avenir. Et nous pouvons dire ici et aussitôt que c'est du jour qui est maintenant venu, du jour dans lequel nous vivons, que parlent si clairement ces prophéties. Les prophéties qui suivent le chapitre 53 d'Ésaïe, le chapitre de la croix et des souffrances, dirigent si clairement vers ce jour au-delà de la croix, le jour de sa résurrection, le jour de l'Esprit c'est le jour de notre jour, dans lequel Dieu nous est montré comme le Dieu de l'Amen, Dieu qui se réaffirme et Dieu réaffirmé. Il est le Dieu de l'Amen, Dieu réaffirme le fait, il réaffirme le fait que malgré tout, il n'a pas changé, il n'a pas abandonné, il n'est pas dans le désespoir. Il est le Dieu dont les décisions et les déterminations sont absolues et finales. Et rien ne peut altérer ses décisions. Il reste le Dieu de l'Amen. Il réaffirme dans ce titre le fait que malgré tout ce qui est arrivé, un reste reviendra. Il y aura encore ce qui plongera de nouveau de nouvelles racines dans le sol et produira ses fruits au soleil. Ésaïe 37, verset 31. Dieu ne peut pas définitivement être déçu dans son dessein, car il est le Dieu de l'Amen. Chers amis, le Seigneur demande avec insistance la réalité. Prenons maintenant le passage du livre de l'Apocalypse et remarquons quel est son contexte. Christ l'Amen parle à l'église de Laodicée. Laodicée, oui, ce mot même, ce mot est le synonyme de ce qui est inné, indéfini, on peut dire indistinct, faible et mélangé. Tu n'es ni froid ni bouillant, Apocalypse chapitre 3 verset 5. Il n'y a rien de distinct ni de défini en toi. Tu n'es ni ceci ni cela. Et il y a beaucoup d'autres choses qui nous sont dites au sujet de Laodicée et qui toutes représentent une situation indigne de confiance et absolument incapable de satisfaire. En un mot, une situation fausse. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Chapitre 3, verset 17. Et tu ne sais pas que cela est entièrement faux, que tu es pauvre, tu es vraiment pauvre. Tu penses être capable de boire et tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu dis, je suis vêtu, j'ai des habits, j'ai tout ce dont j'ai besoin, et tu ne sais pas que tu es nu devant Dieu. Quelle image de fausseté! Et là où il y a fausseté, la catastrophe viendra certainement, et ceci tôt ou tard. Un mensonge sera toujours découvert. C'est une position très dangereuse. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Chapitre 3, verset 14. Oui, le contexte lui-même interprète et explique le titre. Le Seigneur appelle ici Laodicée à revenir à ce qui est représenté par son propre nom et sa nature. Il n'y a rien de mélangé, ni de confus, ni de contradictoire en lui. Il n'y a point de fausseté en lui, rien de tout cela en lui. L'appel qu'il adresse à la fin a en vue un rétablissement. C'est la dernière phase. À la fin, il appelle son Église à revenir à une distinction complète, afin qu'il ne reste aucun doute au sujet de notre position et du but que nous poursuivons. C'est une grande chose en ces jours que de rencontrer des personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent, qui n'ont pas une attitude double. Elles sont établies, elles sont fixées, il n'y a point de variation en elle. C'est une grande chose en notre temps que de rencontrer des personnes comme celle-là. Et le Seigneur dit, ce sera une grande chose. Si l'Église peut être claire comme cela, à la fin, s'il peut y avoir un tel témoignage, c'est là sûrement la signification du vainqueur en ce qui concerne Laodicée. Être donc vainqueur signifie que toute incertitude, tout ce qui est indéfini, tout ce qui est faiblesse, hésitation, duplicité et tout ce qui porte ce caractère a été éliminé. Les vainqueurs sont ceux qui savent où ils sont, où ils vont et ce qu'ils veulent, ceux qui ont la note positive en eux. L'amen, c'est la note de certitude. Et c'est le dernier mot que l'Esprit adresse à l'Église dans cette dispensation. Que celui qui a des oreilles entende, et que l'Esprit dit aux Églises, Apocalypse 3, verset 22. Je répète, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Apocalypse ou Révélation, chapitre 3, verset 22. Le dernier mot de l'Esprit à l'Église dans cette dispensation, si nous devons accepter l'interprétation dispensationnelle de ces messages adressés aux sept églises, un mot que demandent apparemment les conditions elles-mêmes, c'est celui-ci. Laissons toute confusion dans notre témoignage, toute incertitude dans notre note, toute indécision dans notre marche, et ayons de la certitude, de la réalité, de la confiance et de l'assurance, n'ayons aucune hésitation, mais tendons sans cesse vers le but. C'est le mot de l'Esprit Saint. Les grands Amen de Christ, il faut remarquer que ce titre n'est pas seulement donné à Dieu dans l'Ancien Testament, mais qu'il est aussi l'un des titres du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est Jésus-Christ qui dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. L'Amen, le je suis, I am. Maintenant, je suis tout à fait certain que nous sommes parfaitement familiers avec ce fait que dans les 12 occasions ou plus où Jésus-Christ répète par deux fois « en vérité », selon nos versions et nos traductions, le mot grec de l'original est « amen », version Darby, de sorte que nous pouvons dire et lire « amen, amen, je vous le dis ». Et en réalité, on peut réaliser ce qu'implique, chers amis, cette affirmation très puissante. Nous pouvons comprendre mieux les paroles qui la suivent. Si Jésus-Christ dit « en vérité, amen, amen, je suis la porte », il y a une puissance énorme sur ces mots. En d'autres termes, l'on ne peut entrer par aucun autre chemin, selon Saint Jean chapitre 10, verset 7. Nous ne nous étendrons cependant pas sur cela, mais nous voyons le point. Jésus-Christ affirme ici qu'il est l'Amen. C'est ainsi qu'il parle de lui-même dans toutes ces 12 occasions différentes ou plus. Il est tout simplement l'Amen. Mes chers amis, dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, il y a cet Amen immense qui embrasse toutes les malédictions. Pensée terrible, il a été fait malédiction pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ayant été fait malédiction pour nous, car il est écrit « maudit » et « quiconque est pendu au bois » Galates chapitre 3, verset 13. Alors, qu'il était suspendu là, considérant le péché de l'homme, son éloignement de Dieu, son infidélité et son incrédulité, et tout ce que l'homme avait fait contre Dieu, il entra dans toutes les conséquences de la malédiction. Il prit sur lui-même la malédiction méritée pour tout cela, et il dit « Amen, c'est juste, ça doit être ». Il donna donc son « Amen » à la malédiction. Mais c'était final. Il engloutit dans sa mort à la croix toute la malédiction par une affirmation puissante « Dieu est juste, son jugement est juste. Amen. » Mais dans la résurrection, nous avons l'autre aspect de son œuvre à lui, l'Amen. C'est comme le ressuscité qu'il apparaît à Laodicée, et nous le remarquons, « Je suis le vivant, je suis vivant au siècle des siècles. » Apocalypse 1, verset 17. Nous sommes ici du côté de la résurrection, et dans la résurrection, nous dit l'apôtre Paul, nous sommes justifiés par sa vie. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été livré pour nous, pour nos offenses, il a été livré et il a été ressuscité pour notre justification. Selon Romains 4, verset 24, nous avons ici l'Amen de la justification. Sa mort, comme nous l'avons vu, est l'affirmation que Dieu est juste. Pour nous, nous ne connaîtrons jamais la victoire avant d'être arrivés à cette place où nous aussi nous dirons dans ce jugement du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, « Dieu était juste en ce qui me concerne. J'étais là et Dieu était juste » avant d'en arriver là et de dire « Oui, Amen. Dieu était juste en me jugeant comme un pécheur, comme un infidèle. Et Dieu était donc juste. » Nous ne pouvons jamais parvenir de l'autre côté, simplement comme ça. Lorsque nous en sommes là, chers amis, à ce terrible Amen du jugement et de la mort par la foi, nous arrivons à la place où nous pouvons nous trouver de l'autre côté de l'Amen. L'Amen de la justification par sa vie. Oui, car l'affirmation puissante de Dieu déclare que nous sommes justifiés par sa vie. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous voyons donc que Dieu s'est engagé carrément lui-même. Oui, Dieu a mis son sceau et son cachet sur cet Amen, tout aussi réellement que nous avons été condamnés au jugement dans sa mort, tout aussi réellement nous sommes ressuscités à la justification dans sa vie, car Jésus-Christ, notre Seigneur, a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Romains 4, verset 25. Amen, Dieu dit Amen. Il s'est engagé carrément en cela. Il nous faut maintenant terminer, et cette parole n'est-elle pas nécessaire en notre jour? Y eut-il jamais, chers amis, un temps de plus grande incertitude? Peut-être parmi beaucoup d'enfants de Dieu eux-mêmes, de tous les côtés, il y a des questions et des doutes, des vies qui faiblissent, se relâchent et se désintègrent dans le découragement et le désappointement. Ces choses qui affaiblissent le cœur et brisent les cordes de la confiance et de la foi. Il y a aujourd'hui tant de raisons qui font mettre un point d'interrogation sur toute chose. N'est-ce pas ce que vous ressentez? Nous sommes tous tentés de poser de grandes questions au sujet des plus grandes choses, n'est-ce pas? Voyez-vous, lorsque nous regardons au-dedans et au-dehors, nos cœurs pourraient bien souvent perdre leur confiance ou, si vous voulez, on peut dire une confiante assurance. Donc, en un jour comme celui-ci, chers amis, il nous est bon de revenir à Christ et de l'entendre nous dire au sujet du but auquel il s'est donné, je suis l'Amen. Il s'est donné à son dessein éternel comme l'Amen, celui qui ne change pas. Il est donc le commencement et la fin, celui qui est inaltérable et en lequel il n'y a point de variation. Il poursuit donc son but à travers tout. Amen est écrit sur son dessein. Dieu est le Dieu de Amen. Christ est sur le trône et son nom est l'Amen. Son gouvernement est le gouvernement de l'Amen. Il a en toute chose le dernier mot. Il nous faut, chers amis, voir aussi que c'est le Saint-Esprit qui dit les paroles de l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit Saint. L'Esprit est la puissance qui accomplit le dessein et qui exerce le gouvernement. Les trois personnes de la Trinité sont un seul Dieu. Elles portent ce nom, ce titre, cette description, l'Amen. L'Amen, chers amis, que le Seigneur fortifie notre foi en lui. Maintenant, chers amis, nous allons terminer par la prière. Prions ensemble. Quelle grâce tu nous fais, ô notre Dieu, de nous permettre de nous approcher ainsi de toi chaque jour et d'entrer avec toi dans une sainte conversation par la lecture de la parole et par la prière. Fais que chacune des occasions que tu nous donnes, nous sachions la mettre à profit. Rends-nous fidèles aussi, Seigneur, afin que nous sachions parler de toi à ceux qui ne te connaissent point. Tu nous as promis, Seigneur Jésus-Christ, de confesser devant ton Père céleste, celui qui te confessera devant les hommes, mais tu renieras devant ton Père céleste, celui qui t'aura renié devant les hommes. Donne-nous donc un saint courage pour te confesser et pour te rendre toujours un fidèle témoignage. Seigneur, qui n'a point eu honte de nous appeler tes frères et tes sœurs et de te rendre semblable à nous, afin de nous rendre semblables à toi. Fais que nous n'ayons point honte de toi. Ouvre notre bouche afin que nous puissions raconter les grandes choses que tu nous as faites. Nous te prions de bénir les efforts de tous ceux qui travaillent à l'avancement de ton règne et au salut des âmes. Ô, remplis-les de ton Esprit Saint et donne efficacité à leurs paroles, pour convaincre les pécheurs et pour amener les âmes captives aux pieds du Seigneur. Combien y en a-t-il, Seigneur, qui s'ouvriraient avec bonheur à ta sainte parole si elle leur était présentée avec amour. Daigne te servir de nous malgré notre faiblesse et donne-nous de ne pas perdre une occasion de nous dévouer à nos frères et sœurs et de te glorifier. Exauce-nous pour l'amour de ton saint nom. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité. Et nous vous aimons également, vous pouvez le croire, de tout notre cœur. Soyez bénis. Et à bientôt, à nouveau. Au revoir, chers amis.